Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Et bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo. Bon réveil, il est 7h passées de 2 minutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag de l'Immo. Pour vous accompagner, pour vous réveiller, des infos, des news sur l'immobilier, bien sûr, les investissements. Je suis en compagnie de Fabienne Issac. Bonjour Fabienne.
Bonjour Fabrice, comment ça va ?
Eh ben, ça va très bien avec ce petit vent frais ce matin. Fabienne, qu'est-ce qui nous attend durant cette première heure ?
Eh bien, un mec de l'IMO très musical. Alors, est-ce que c'est Fabrice qui va être chef d'orchestre ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises ? Vous le savez, c'est du côté de l'invité que ça se passe parce que c'est une personne qui chante très bien.
Voilà, ça sera à 8h. On aura le plaisir de recevoir le finaliste de la Starac, la première Starac, ça ne nous rajeunit pas. Ce sera Mario Baravecchia, qui est aujourd'hui responsable associé chez Réservoir Immo. Il va nous parler bien sûr de cette société où il travaille, la stratégie de ses projets. Et durant cette première heure, on aura un panaché d'interviews, de chroniques, le tout sur le mec de l'Immo.
Et de musique.
Et bien sûr, de musique. Juste avant 8h tout à l'heure, comme d'habitude, la start-up Immo, grâce à Jean-Michel.
Oui, c'est Uptown, une start-up qui a une belle promesse, beaucoup d'innovation. C'est Jean-Michel Rouillot qui l'a découverte.
Et voilà, donc voilà pour ce programme alléchant. C'est parti pour le Mag de l'Immo.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On démarre, chers amis, avec le métro, le prolongement de la ligne 4 vers Montrouge-et-Bagneux, c'est en région parisienne, avec l'ouverture de deux nouvelles gares, a causé de grosses hausses de prix immobiliers à proximité, des prix qui montent dans ce fameux Grand Paris suite à ces nouvelles stations de métro. On écoute tout de suite la chronique de Vincent Favéro.
La ligne 4 du métro parisien est l'une des plus fréquentées de la capitale. De Porte de Clignancourt à Mairie de Montrouge, elle transporte quelque 700 000 passagers par jour. Et depuis le 13 janvier, la ligne a été rallongée au sud par deux nouvelles stations, Barbara et Lucie Aubrac, qui font significativement augmenter les prix dans les villes desservies, comme le décrit le site Meilleur Agent. À Bagneux et Montrouge, depuis 2015 et le lancement des travaux pour le prolongement de cette ligne 4, autour de la station Barbara, les prix de l'immobilier ont augmenté de 32%, autour de la gare Lucie Aubrac de 38%, un record car les deux villes ne voient sur la même période les prix augmenter que de 23% en moyenne, 10 points en dessous de l'apport du métro. Cette hausse qui vient renforcer une ligne de métro déjà dans le top 3 des plus chers de la capitale, à 11 805 euros en moyenne sur l'ensemble du trajet, elle se positionne juste derrière la ligne 10 et la ligne 1, comme le rappellent nos confrères du Figaro. Ce prolongement de la ligne 4 appelle d'autres augmentations sur le métro du Grand Paris. Cette fois, ce projet de métro qui ceinture Paris avec plusieurs nouvelles lignes et n'est pas encore en service que déjà par endroits les prix s'envolent. C'est le cas à Saint-Ouen où la station Mairie de Saint-Ouen a connu une augmentation de plus 55% en 5 ans. La station La Défense, Grande Arche, augmente de plus 48%. La station Porte de Clichy, qui va accueillir une gare du prolongement de la ligne 14, affiche, elle, plus 45%. Meilleur Agent avait déjà, il y a quelques mois même, travaillé sur les 5 villes où il fallait investir pour bénéficier de l'effet augmentation des prix avec le métro du Grand Paris. On retrouvait Saint-Denis, Bobigny, Villejuif, Gennevilliers, mais aussi Bagneux, comme quoi la ville du Sud Paris est bien l'une des plus en vue de la petite couronne pour le marché immobilier. Reste à savoir comment vont s'en sortir les autres territoires, ceux qui ne bénéficient pas encore des prolongements ou de l'arrivée du supermétro. Une Île-de-France à deux vitesses pourrait ainsi se dessiner dans les années à venir.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On revient sur les grandes tendances de l'année 2021 pour les investissements immobiliers. C'est Mathieu Garraud, le co-directeur du département Capital Markets chez Knight Frank, qui le fait. Alors, il retient la résistance du bureau, notamment en prime, l'explosion de la logistique avec la montée du e-commerce et des data centers. Il faut savoir que les capitaux étrangers représentent, selon Knight Frank, 46% des 25 milliards investis, États-Unis et Allemagne en tête. Le secteur des bureaux bénéficie d'une profondeur de marché plus importante, avec une vraie pénurie sur les bureaux core, dont les prix s'envolent et tangentent les 1000 euros le mètre carré sur les meilleures artères parisiennes. Vous voulez tout savoir ? Je vous propose d'écouter Fabrice Coustet.
On est en compagnie de Mathieu Garraud, le co-directeur du département Capital Markets chez Knight Frank. On sort de cette conférence de presse, bilan et perspectives 2021-2022. Mathieu, on se pose la question justement avec vous, si on brosse le tableau de cette année 2021, finalement elle n'a pas été si catastrophique que ça.
Non, elle est même plutôt très positive puisqu'on reste supérieur au volume investi en moyenne décennale, donc un peu plus de 25 milliards d'euros. Effectivement, on note une diminution de l'ordre de 5%, donc une diminution très très mesurée. Mais après, comme je le disais tout à l'heure lors de la présentation, une variation assez majeure sur les actifs, les destinations d'actifs qui ont changé par rapport à 2020, et notamment la baisse du bureau, très claire, et notamment sur Paris-Île-de-France.
Ouais, les grandes tendances, effectivement. Baisse du bureau, on va le voir dans le détail. Et surtout, essor aussi de la logistique, évidemment, avec ce e-commerce, mais pas seulement.
Absolument. La logistique et l'industriel a vraiment explosé les compteurs sur l'année 2021, avec un peu plus de 6,5 milliards placés. Donc, ce qui constitue le plus haut chiffre jamais réalisé par cette classe d'actifs. Effectivement, ça s'explique par ce qu'on a pu vivre pendant la pandémie, avec des plateformes logistiques qui n'ont pas été touchées par cette pandémie, qui au contraire ont tourné énormément et n'ont pas été impactées. Et donc une classe d'actifs exceptionnellement solide pour les investisseurs, avec des taux de rendement prime qui commencent à atteindre quasiment les mêmes niveaux de taux prime que le bureau parisien qu'on a pu observer, avec une différence de l'ordre de 25 à 30 bips aujourd'hui, ce qui est vraiment absolument rien du tout.
Les fameux points de base. Je le disais, la logistique, mais pas seulement le e-commerce. On a aussi le cloud computing, c'est-à-dire ces centres de serveurs. Et puis aussi un département santé, life science. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, pour revenir sur le data center, qui est effectivement une classe d'actifs qui est très, très répandue aux États-Unis, qui commence à être très, très recherchée aussi sur la partie européenne et sur la France également. C'est un énorme relais de croissance parce que, comme on le voit, on a besoin de plus en plus d'espace de stockage et ça va bien évidemment continuer de manière très importante. On a des contraintes pour ces bâtiments, notamment en termes d'arrivée électrique, et c'est un relais de croissance pour des bâtiments qui pourraient devenir obsolètes et qui pourraient demain accueillir des gros data centers ou de la logistique du dernier kilomètre, ou également l'exploitation d'infrastructures qui étaient complètement inoccupées, la place des parkings aussi à venir avec les mobilités douces. Est-ce qu'on va pas s'interroger sur la transformation de parking après à terme pour des serveurs, pour la logistique du dernier kilomètre, pour on parlait du quick commerce tout à l'heure pour les livraisons de courses à domicile. Alors on voit une très grande réflexion sur la transformation de l'usage.
Qui sont justement ces grands investisseurs? Est-ce qu'ils sont nationaux ou est-ce qu'il y en a aussi des investisseurs étrangers qui y reviennent?
Alors, les investisseurs étrangers étaient déjà là sur les dernières années de manière assez importante. Ils ont fait une nouvelle percée sur l'année 2021. Aujourd'hui, les capitaux investis par les étrangers sont de l'ordre de 46%, toutes classes d'actifs confondues, majoritairement par les Américains qui ont été extrêmement présents et suivis après par les Allemands, mais avec une différence très importante puisqu'on était à 39% pour les Américains et plutôt 16% pour les Allemands. Alors, on voit aussi que la France reste un pays très attractif, très prisé par les capitaux étrangers. Le recul des investisseurs nationaux s'explique par notamment la baisse des collectes des SCPI et OPCI sur l'année 2021.
On fait un focus également sur les bureaux, hein, ces bureaux qui ont souffert, et on se pose bien évidemment la question du télétravail. Est-ce qu'il y a eu une influence? Est-ce qu'on a vu un recul également de la part du marché des bureaux ou une transformation?
Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons en fait à ça. Le bureau a effectivement reculé dans les investissements, mais pas forcément dans les demandes que pourraient avoir les investisseurs à acheter du bureau, mais plus par des produits qui ont manqué et par des investisseurs, comme je l'indiquais avant, qui ont également manqué. Donc dans les commercialisations d'actifs, on s'est retrouvé avec une profondeur de marché. Ce qu'on appelle, nous, la profondeur de marché, c'est les investisseurs qui sont en capacité d'acheter un immeuble qu'on met sur le marché. Il y avait un peu moins de liquidité pour certains produits. On en avait aussi, on a eu de la concurrence quand même sur les marketing, mais un peu moins que les années précédentes. Mais on a surtout eu un manque de produits sur toutes les classes d'actifs, sur le bureau et surtout sur les bureaux, ce qu'on appelle core, occupés sur du long terme avec une très bonne contrepartie locative à des niveaux de loyer de marché et sur des immeubles neufs ou restructurés.
On a l'impression aussi qu'on a une dichotomie vraiment entre les beaux quartiers ou ce qu'on appelle le prime, hein, le QCA, quartier d'affaires, et puis la Défense, la première couronne, la deuxième couronne, qui semble un petit peu sinistrée.
Alors aujourd'hui, effectivement, c'est le constat ou la photo actuelle. On a un taux de vacances au niveau locatif dans Paris qui est redescendu en dessous du taux de liquidité. Donc on est inférieur notamment sur le quartier central des affaires à 5%. Il y a eu un moment même où on était inférieur à 3%. Donc ce qui signifie une forte tension des utilisateurs sur ce secteur. Une augmentation importante des valeurs locatives, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler lors de la présentation. On a maintenant plusieurs opérations, de nombreuses opérations qui ont été louées à plus de 900 euros du mètre carré. Vraisemblablement, on atteindra 1000 euros du mètre carré pour certains actifs prime, restructurés à neuf et sur les meilleures artères parisiennes. C'est vrai que la pandémie a impacté majoritairement et impacte aujourd'hui majoritairement des marchés périphériques avec des taux de vacances importants, notamment sur la première couronne nord, la Défense, on en parlait aussi tout à l'heure, mais avec aussi, je pense, de l'avenir positif pour tous ces secteurs. Parce qu'on a toujours des très bonnes dessertes et qui vont s'intensifier, notamment avec le Grand Paris. On parlait de Saint-Denis tout à l'heure. C'est certainement l'une des communes qui va le plus bénéficier de l'accélération des transports avec les Jeux Olympiques. Le télétravail, évidemment, c'est une norme aujourd'hui qui est rentrée vraiment dans les mœurs de tous les utilisateurs. Est-ce qu'elle est pérenne ou pas à ce niveau-là de niveau de télétravail? Peut-être pas. Parce que je pense que tous les salariés, ou en tout cas les salariés des entreprises, ont aussi envie de revenir. Ont envie de retrouver un lieu de rencontre et d'échange avec leurs collègues. Ils ont tous envie de revenir au bureau et pas forcément de passer 3 ou 4 jours en télétravail par semaine.
Et puis parmi les investisseurs, en tout cas les nouveaux investisseurs, on voit les fintechs hein, qui lèvent beaucoup d'argent et qui sont prêtes à s'installer, alors elles, dans l'hypercentre de Paris.
Absolument, c'était déjà les précurseurs, on va dire, sur le quartier central des affaires, sur la partie opéra, tout ce secteur qui avait été libéré préalablement par les banques et les assurances, parce que c'était finalement les premiers quartiers fibrés de Paris. C'est aussi l'une des raisons de leur installation sur ce secteur. Après, on a vu aussi les anciens utilisateurs de ces secteurs partir pour la première période. Pour des raisons d'économie, pour des raisons aussi d'importance de mètre carré recherché. Les fintechs vont beaucoup grossir, très vite grossir. Même si une partie du télétravail restera importante dans ce type de société, elles nécessiteront vraisemblablement de surfaces complémentaires très vite et elles auront peut-être du mal à trouver dans Paris. Donc est-ce que les relais de croissance de la périphérie pour des secteurs très bien desservis par les transports, peut-être que ce sera l'Eldorado ou le nouvel Eldorado des fintechs?
Merci Mathieu Garraud, je rappelle que vous êtes co-directeur du département Capital Market chez Knight Frank. À très bientôt sur notre antenne.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Après une année record et une forte progression de l'activité, le groupe Century 21 lance une grande campagne de recrutement au niveau national. Le groupe est à la recherche de ses nouveaux talents. Tous les profils sont les bienvenus. Alors, ce talent de Fabrice, on le garde et on écoute tout de suite une chronique de Kenza Brega.
2021 a été l'année de tous les records pour le marché immobilier de l'ancien. Pour la 7e année consécutive, Century 21 a enregistré une forte progression de son activité. Avec les 925 agences du réseau, le groupe lance une grande campagne de recrutement pour poursuivre son développement. Que vous ayez une expérience ou pas, que vous sortiez de l'école avec des bagages ou pas, tous les profils sont les bienvenus et plus de 20 métiers différents sont proposés. Assistant commercial, conseiller, gestionnaire, comptable, manager d'agence. Des réunions d'information vont être organisées sur les métiers de l'immobilier les semaines à venir dans toute la France pour faire découvrir ce secteur passionnant, aujourd'hui en pleine mutation. Pour s'inscrire ou directement postuler, les candidats peuvent se rendre sur le site www.century21.fr.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas ? Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé? Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle. ThyssenKrupp Elevator est maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
Et vous êtes bien dans le Mag de l'Immo. On vous réveille avec les meilleures infos sur l'immobilier. Et tiens, justement, à se poser la question, la fièvre qui s'est emparée des Français sur l'immobilier va-t-elle s'atténuer cette année? En tout cas, le groupe bancaire BPCE anticipe encore une progression moyenne des prix de 5% dans l'ancien. Le directeur des études économiques de BPCE Immobilier, Alain Tourgeman, était à votre micro. Fabienne, on l'écoute tout de suite.
Merci. Alain Tourgeman, bonjour, vous êtes le directeur des études et prospectives du pôle finance et stratégie au groupe BPCE, bonjour.
Bonjour.
Alors, la fièvre immobilière retombe-t-elle?
Alors, nous avons quelques raisons de penser qu'elle va un peu retomber, en particulier parce que les projets des ménages en matière immobilière qui ont atteint des niveaux sans précédent en février et en mai 2021 dans notre enquête semblent marquer le pas et même reculer significativement en novembre. Alors, ils ne reculent pas de parmi toutes les catégories, on continue à voir les catégories un peu maîtresses du marché de l'immobilier, ceux notamment qui achètent et revendent et qui sont déjà bien installés et continuent à avoir des projets très forts. En revanche, les jeunes, les primo-accédants, les revenus plus faibles, à la fois ont des projets qui sont en recul et en même temps ont une vision beaucoup moins positive de l'environnement du logement et pensent que le moment est moins favorable pour eux pour acheter.
On parle beaucoup de rénovation énergétique, ça y est, les Français se sont lancés dans les grands travaux?
Alors oui, les Français sont lancés dans les grands travaux. On a 39% des propriétaires qui nous disent vouloir faire des travaux de rénovation énergétique d'ici à 5 ans. C'est une proportion très significative, alors qu'elle est plutôt plus forte pour les jeunes générations que pour les plus âgés. Il y a manifestement une logique d'investissement de long terme dans cette affaire, c'est fort et en même temps on voit bien qu'on est là à la convergence à la fois des effets du surinvestissement dans le logement qui est lié à la crise, mais en même temps de l'accumulation des réglementations qu'on a connues avec la loi énergie-climat, la loi climat et résilience plus récente et la réforme du DPE, et puis en même temps cette sorte de bascule qui arrive maintenant avec le passage d'obligation d'information à bientôt à une pénalisation, voire à une contrainte à agir en matière de travaux, notamment pour pouvoir continuer à louer des biens si on le souhaite.
Si on se focalise sur le DPE, ça a été vraiment un facteur de disruption sur le marché. En tout cas, il faut s'attendre à ça, non?
Alors, probablement qu'à moyen terme, ça deviendra un facteur de disruption sur le marché. C'est d'abord, il commence avec simplement les classes F et G, il touche 17% des résidences principales et il va toucher très spécifiquement le marché locatif à court terme, puisque d'ici à 2028, on doit avoir près de 2 millions de logements qui devraient avoir fait des travaux leur permettant de gagner des classes énergétiques, c'est-à-dire des gros travaux. Donc on se demande comment tout ça pourrait être fait dans un tel délai. Donc il y a cette dimension d'impact quantitative d'une certaine façon. Il y a aussi une autre dimension, c'est que dans la mesure où il y a tout cet effet d'annonce et un horizon qui est maintenant un horizon de court terme dans la prise en compte du DPE et des contraintes associées, c'est de plus en plus intégré dans les anticipations des ménages et il faut s'attendre à ce que demain, après-demain, le coût des travaux qui va être notifié dans les DPE soit de plus en plus un facteur et une base de négociation entre l'acheteur et le vendeur pour évaluer ce qui est un prix de marché qui intègre l'obligation finalement de se mettre à niveau en matière de en matière énergétique. Donc il y a aussi un effet prix, il y aura probablement également un effet zone d'établissement de ces logements, puisque une grande partie des logements F et G sont dans des zones qui sont quand même plutôt en repli sur le plan démographique et économique, avec beaucoup d'habitats individuels, parfois des ménages âgés ou très âgés, et donc on est dans une situation où à la fois l'utilité et l'aspiration à faire ces travaux là sera plutôt plus faible, et on risque d'avoir également un problème social qu'il faudra gérer par de l'incitation pour la mise en place de ce DPE.
Alain Tourgeman, merci beaucoup de nous avoir synthétisé la présentation du groupe BPCE. Merci, au revoir.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
En prenant en compte le cadre de vie, les prix de l'immobilier ainsi que la qualité des services de santé, Le Figaro a listé les 10 communes de plus de 100 000 habitants les plus avantageuses pour les retraités. Si le podium reste équivalent à celui du classement de toutes les villes confondues, d'autres sont un petit peu plus inattendues. On écoute le sujet de Kenza Brega.
Sur son site internet, Le Figaro publie son palmarès 2022 des villes où il fait bon vivre de prendre sa retraite. Grande surprise de ce palmarès, la ville de Granville, dans la Manche, en première position devant Sète et Dax. La cité corsaire détrône ainsi Andernos et Arcachon, arrivés en tête en 2021. Le journal explique avant tout sa méthodologie de travail, basée sur 5 catégories. Santé, qualité de cadre de vie, offre de services, activité accessible et attractivité pour les retraités, et enfin le prix du logement. Si le podium reste équivalent à celui du classement de toutes les villes confondues, d'autres sont plus inattendues. Outre la Normandie et la Bretagne, qui restent très prisées par les retraités, on retrouve le sud de la France qui domine une bonne partie du classement. Une fois la vie active passée, nul besoin en effet de vivre à proximité de la capitale ou encore des grandes métropoles. Avant le Covid, les retraités propriétaires d'une résidence secondaire s'y rendaient de temps en temps pour les week-ends et les vacances. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des quinquas télétravailler 3-4 jours dans leur maison de campagne, devenue d'ailleurs leur résidence semi-principale, et se rendre par ailleurs sur leur lieu de travail le reste de la semaine.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion Système, promis et bien ici.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away.
Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo, doo-doo-doo-dee-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Et on vient d'écouter Strangers in the Night, la version de Frank Sinatra.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Vous êtes bien dans le Mac de l'Imo, il est 7h30, passé de quelques minutes. On s'intéresse tout de suite à une nouvelle plateforme collaborative pour faire progresser les copropriétés. Olivier Safar, le président de CaliSR, président adjoint de la FNAIM, lance en ce moment une nouvelle plateforme collaborative élaborée par un cercle d'experts pour accompagner les copropriétés au quotidien et les aider à prévenir et traiter les charges de copropriété. Il est au micro de Kenza Braga.
Bonjour Olivier Safar.
Oui, bonjour Kenza.
Vous êtes le président de CaliSR et président adjoint de l'UNIS. Alors, lors d'une récente conférence de presse, vous avez présenté une nouvelle plateforme élaborée par un cercle d'experts. Alors, avant de nous expliquer les principes de cette union collaborative, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions principales de CaliSR ?
Alors, CaliSR est une association de loi 1901 qui regroupe effectivement des professionnels de l'immobilier d'abord, syndics de copropriété, qu'ils soient membres de l'UNIS, de la FNAIM ou même des syndics sociaux de l'USA, qui regroupe en même temps les associations de défense des copropriétaires, des fondations, et surtout des opérateurs de l'habitat, comme Solia, Urbanis, Cité-Métrie, et tout ça avec les pouvoirs publics qui sont présents dans le collège, effectivement, de CaliSR, que ce soit l'ANA, bien évidemment, mais aussi le ministère du Logement avec la DHUP, et toutes les collectivités territoriales et établissements publics. Le rôle de syndic CaliSR, c'est des syndics de prévention et de redressement des copropriétés en difficulté. C'est le premier rôle. Nous avons créé un deuxième rôle aujourd'hui. On considère qu'il faut avancer pour prévenir les difficultés. Et ce que nous avons voulu mettre en place, c'est le rôle de syndic de confiance aujourd'hui, avec un cercle de confiance sur des syndics qui sont capables d'identifier les risques de fragilisation des copropriétés. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui notre mise en avant. On considère qu'aujourd'hui, il y a deux niveaux. Il y a le syndic CaliSR qui sera certifié, bien évidemment, par SGS, qui est reconnu par la COFRAC.
Oui.
Et ça, c'est un syndic qui va permettre le redressement des copropriétés. Et il y a un deuxième temps, ce qui est le début, c'est de construire en réalité un cercle de confiance autour de syndics qui sont à même de repérer les copropriétés en voie de fragilisation ou fragilisées pour éviter que ces copropriétés ne deviennent des copropriétés en difficulté. Le rôle, en réalité, c'est de dire attention, quand on a une copropriété en difficulté et qu'on doit la redresser, c'est 5 à 10 ans. Quand on repère une copropriété fragile, le but du jeu, c'est d'arriver en 2-3 ans à éviter qu'elle ne passe en copropriété en difficulté. Et ça, c'est le rôle de CaliSR, c'est notre rôle à nous, et c'est notre volonté de faire avancer les choses.
Très bien. Alors, cette plateforme, elle va consister en quoi ?
Alors, cette plateforme, aujourd'hui, nous avons, tous ces groupes d'experts, rédigé 20 propositions pour mieux prévenir et traiter les impayés de charges. Ça, c'est un point important. Parce qu'on se rend compte que si on n'analyse pas ces choses-là, si on n'intervient pas, ça marche pas. Et on a effectivement tous ensemble, FNAIM, UNIS, la partie des avocats, l'ANIL, l'ARC, l'USH, Solia, Urbanis, Cité-Métrie, de nombreux avocats et spécialistes de la copropriété développer ces 20 propositions.
Alors, Olivier Safar, dans le cadre de ces 20 propositions pour mieux prévenir et traiter les impayés de charges de copropriété, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être trois axes importants que vous avez envie de nous faire partager ce matin ?
Alors, on a mis les choses en avant. Le premier axe, c'est prévenir les impayés de charges. C'est s'assurer qu'effectivement, les candidats, quand ils achètent un appartement, soient au courant qu'il y a des charges de copropriété, améliorer la maîtrise des charges de l'immeuble, parce que c'est un point important, et mensualiser les charges de copropriété. Vous savez que quand on appelle les charges aujourd'hui, elles sont trimestrielles, certains copropriétaires ont du mal à payer trimestriellement le montant. Si on le mensualise, c'est plus facile. Et ça, c'est quand même un point important. Le deuxième axe, c'est favoriser la conciliation et renforcer la phase précontentieuse. Il faut inciter tous les syndics qui s'occupent de ces copropriétés à rechercher d'abord la conciliation, à se trouver des solutions non judiciaires, à mettre en place des protocoles d'échelonnement pour ceux qui ont des difficultés. Les accidents de la vie existent. Il faut connaître ces copropriétaires, savoir ceux qui ont des difficultés et mettre en place ces solutions-là. En revanche, de l'autre côté, c'est de pouvoir dire celui-là, c'est pas un accident de la vie, c'est une volonté. Et notre axe 3, bien évidemment, c'est d'accélérer et de rendre plus efficace la phase contentieuse. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que certains n'ont pas l'intention de payer et qu'ils vont profiter effectivement des possibilités qu'ils ont pour pouvoir dire on verra dans 3 ans ou 4 ans quand on sera condamné. Donc le but du jeu, c'est 1. Accroître l'implication des conseillers syndicaux dans le suivi des charges avec le syndic. Et il faut qu'ils soient les deux ensemble et qu'ils avancent de concert. Deuxième chose, c'est préparer les documents pour les magistrats pour qu'ils puissent comprendre la partie comptable et les différents documents. Et surtout, il faut inviter nos magistrats à comprendre que l'article 700, quand on donne 500 ou 700 ou 1000 euros, par rapport à 3000 euros de frais que le syndicat des copropriétaires a dû dépenser, ça colle pas et ça ne correspond pas au montant. Et ça, c'est quand même un point important. Et le dernier point, c'est qu'on voudrait qu'effectivement il y ait une chambre d'urgence de chez les magistrats dans les tribunaux. Aujourd'hui, on va devant le tribunal, quand on a une procédure de recouvrement, en moyenne, c'est 9 à 12 mois. Quand il y a un appel, on se retrouve globalement avec 15 mois de plus. Donc le copropriétaire est condamné 3 ans après. Et ça, c'est trop tard. Entre-temps, la copropriété qui était fragile est devenue en difficulté.
Bon, et bien, tous ces messages sont bien passés sur notre antenne, Olivier Safar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de CaliSR et président adjoint de l'UNIS.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
En France, un quart des propriétaires possèdent 2/3 du parc de logements. L'immobilier Et serait-il à l'image de l'économie mondiale ? Une étude de l'INSEE intitulée « France, portrait social » pointe ainsi une répartition des biens immobiliers inégale. Selon les chiffres de l'INSEE, un quart des ménages français est ainsi propriétaire de près de 70% du parc de logements détenus par les particuliers. Une chronique de Johanna Zilberstein.
Et si l'immobilier était à l'image de l'économie mondiale ? Une étude de l'INSEE intitulée « France, portrait social » pointe ainsi une répartition des biens immobiliers inégale. Selon les chiffres, un quart des ménages français est ainsi propriétaire de près de 70% du parc de logements détenus par les particuliers. Dans le détail, un peu plus de 28 millions de logements sont possédés en nom propre ou via une société civile immobilière. Ces biens sont soit occupés comme résidence principale ou secondaire, soit mis en location. Autre fait, la majorité des ménages propriétaires ne possèdent qu'un logement. À l'inverse, un quart des ménages propriétaires possèdent deux logements ou plus. Ces 7,3 millions de ménages possèdent à eux seuls 2/3 des logements acquis par des particuliers. Autre enseignement de cette étude, le nombre de logements augmente avec le niveau de vie. Ainsi, parmi les 20% de ménages les plus aisés, ils ne sont que 15% à ne pas être propriétaires. Notez également que 41% des ménages multipropriétaires font partie des 20% des ménages les plus aisés. Un constat assez logique qui s'explique par une capacité d'épargne plus importante. C'est également pour cela que 2/3 de ces ménages sont des couples qui mettent leurs ressources en commun et qu'ils ont en moyenne 57 ans et donc une meilleure situation professionnelle.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Le Mac de l'Imo, ça continue. On va s'intéresser aux entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte immobilière. Les salariés sont moins amenés à se rendre à leur bureau. Le bureau opéré serait-il le concept en vogue dans un monde placé sous le signe de la crise sanitaire ? C'est ce que pense Xavier Thomas, le cofondateur d'Eeptown.
Xavier Thomas, bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Eeptown et vous nous dites que, à la suite de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises cherchent à réduire leur empreinte immobilière parce que beaucoup de salariés n'ont plus tellement envie de se rendre au bureau. C'est ce que vous constatez ?
Alors, ce qu'on constate en fait globalement, c'est que, en effet, ce contexte dans lequel on est en train, on l'espère, de sortir, a globalement ouvert sur la réflexion de l'immobilier d'entreprise. Très schématiquement aujourd'hui, on avait jusqu'à présent une hégémonie du bail traditionnel sur lequel on s'engageait dans la durée. Le coworking est venu, il y a maintenant une dizaine d'années, venir inscrire une offre alternative à ce bail traditionnel. Et aujourd'hui, on a encore, du fait de ce contexte, l'opportunité eh bien, de se reposer et de réfléchir à qu'est-ce que va être l'immobilier d'entreprise de demain avec des nouvelles offres et avec véritablement un cas d'usage de l'entreprise à réincarner.
Que proposez-vous pour satisfaire les aspirations des salariés et des employeurs ?
Eh bien, globalement, on a chez Hipton différentes offres, mais celle qui ressort et celle qui est vraiment mise en lumière de ce contexte, c'est vraiment l'offre de bureau opéré. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'un clé en main utilisateur qui a véritablement pour but de faciliter la vie du client final. En somme, et très de manière très détaillée, nous, via le bureau opéré, on va s'occuper de trouver une surface indépendante pour le client. On va s'occuper de toute la partie contractualisation, de toute la partie aménagement, répondant au cahier des charges que le client a exprimé. Et on va agrémenter l'expérience d'exploitation de la surface avec du service. Donc globalement, c'est une offre qui est vraiment l'intermédiaire entre le bail traditionnel qu'on vient d'évoquer et l'offre de coworking qui ne répond pas à tous les besoins clients.
On peut parler d'un concept de bureau clé en main ?
Complètement. C'est exactement ça. C'est le clé en main, c'est vraiment aujourd'hui choisir sa surface, le bon volume, vraiment être dans des chaussons pour l'entreprise et par contre venir l'agrémenter de services que le coworking amène.
Il y a eu pas mal d'inquiétudes sur l'évolution du marché de l'immobilier de bureaux. Pour vous, ça peut être véritablement un relais de croissance, ce bureau opéré ?
Absolument, absolument. Aujourd'hui, en fait, les entreprises redéfinissent leurs besoins, c'est ce qui prend un petit peu de temps, redéfinissent les surfaces, notamment, qu'elles souhaitent avoir, et surtout l'usage de ces surfaces-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment en sortie de contexte de crise sanitaire, le télétravail est aujourd'hui complètement installé dans la vie des entreprises, ils sont en train de le calibrer, et donc se pose la question de comment se positionne l'espace de travail et ce qu'on va y faire et pourquoi on va faire venir les collaborateurs. Et donc le bureau opéré, globalement, c'est vraiment cette continuité de cette logique d'espace de travail en se disant qu'on vient s'y retrouver, on vient partager un bon moment, on vient redéfinir des logiques d'entreprise en complément du télétravail.
C'est une offre qui s'adresse surtout aux grands groupes ou à tout type d'entreprise ?
Alors c'est une très bonne question. C'est une offre véritablement qui va débuter globalement sur des surfaces de 300 mètres carrés, donc on est vraiment de l'ordre de la petite entreprise, et qui va en fait aller jusqu'à des demandes de 1000, 2000, 3000 mètres carrés. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on va aussi être dans une logique d'accompagnement de l'entreprise dans sa croissance, en lui disant, bah écoutez, positionnez-vous sur un premier volume indépendant que Hipton va prendre en charge pour vous, et ensuite on va être capable de prendre des surfaces complémentaires dans le même volume, dans le même immeuble.
Pour finir, ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires chez Hipton ? Vous allez continuer de vous développer là-dedans ?
Ah bah c'est très clairement un relais de croissance. Ça va aujourd'hui représenter une part de l'activité très importante, notamment sur les prochaines années. On a en fait aujourd'hui chez Hipton développé ce qu'on appelle des sites flagship dans les différentes métropoles françaises. Et agrémenté à ces sites flagship, c'est globalement ce qu'on a fait de 2019 à 2021, eh bien on va venir positionner des offres de bureaux opérés en satellite, globalement pour répondre à du clé en main utilisateur.
Merci Xavier Thomas pour cet éclairage sur le bureau opéré. Merci à vous.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici. La CNASIM, la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. C'est le syndicat qui représente les agents commerciaux en immobilier auprès du législateur et autres institutions. La CNASIM conseille et défend collectivement et individuellement les agents commerciaux en immobilier. Ne remettez pas à demain la défense de vos intérêts. Rejoignez la CNASIM car elle partage les valeurs de solidarité et parce que aider un seul d'entre nous, c'est tous nous aider. Retrouvez-nous chaque mois dans l'émission « La CNASIM vous parle » sur Radio Immo.
Découvrez Prévisite, le leader français des solutions de création de contenu enrichi pour les professionnels de l'immobilier. Avec nos applications, vous pourrez en toute autonomie créer vos visites virtuelles interactives, vos vidéos ou encore vos photos HDR comme un véritable professionnel. Vous pourrez ainsi mettre en valeur vos annonces, faire visiter vos biens à distance et ainsi gagner plus de clients. Prévisite propose des solutions simples et efficaces pour apporter une réelle valeur ajoutée à votre stratégie de communication digitale. Rendez-vous sur notre site www.prévisite.fr pour plus d'informations. Prévisite est une marque du groupe La Boîte Immo.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
On ne cesse de vous le dire sur Radio Immo, l'argent n'a jamais été si peu cher et pourtant malgré les taux bas, il est bien plus long de rembourser son crédit immobilier en 2022 qu'il y a 20 ans. C'est un sujet de Johanna Zilberstein.
On ne cesse de vous le dire sur Radio Immo, l'argent n'a jamais été si peu cher et pourtant malgré les taux bas, il est bien plus long de rembourser son crédit immobilier en 2022 qu'il y a 20 ans. L'explication à ce phénomène est simple, les prix de l'immobilier, eux, n'ont jamais été aussi hauts. Selon l'indice des notaires et de l'INSEE, l'immobilier a ainsi augmenté de 111% depuis 2002, et ce, sur l'ensemble du territoire. Pour se rendre compte de l'impact de cette hausse, nos confrères de BFM TV ont fait le calcul. Un couple de salariés au SMIC sans apport devait en 2022 emprunter 38 400 euros pour un appartement de 60 mètres carrés à Saint-Étienne. Un crédit qu'il pouvait rembourser en 6 ans et demi. Aujourd'hui, alors que les prix ont augmenté de 90% dans la ville, il leur faudra emprunter près de 73 000 euros qu'ils rembourseront en un peu plus de 7 ans et demi. Une perte de pouvoir d'achat encore plus flagrante dans les grandes villes et même certaines villes moyennes comme Angers. Une éclaircie toutefois, certaines villes ont connu une augmentation du salaire minimum, permettant une chute moins brusque du pouvoir d'achat, couplée à une augmentation des prix de l'immobilier plus raisonnable. Enfin, concernant les grandes villes, elles sont devenues inaccessibles aux ménages les plus modestes, accélérant leur gentrification.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Bienvenue dans le Mac de l'Immo pour tous ceux qui nous rejoignent. Tous les vendredis, on le répète, de 7h à 9h, une heure d'actu, une heure avec un grand invité qu'on va découvrir dans quelques secondes. Mais juste avant 8h, c'est l'heure de découvrir la start-up Immo de la semaine en compagnie de Jean-Michel Royot qui nous présente Upstone, fondé par Arnaud Romanet. Il a décidé de simplifier l'investissement en immobilier en le rendant accessible, clair et facile. Tout un programme, on écoute tout de suite.
Oui, bonjour. Ce matin, on a la chance d'accueillir Arnaud Romanet. Alors Arnaud Romanet, c'est un jeune start-upper qui a fondé il y a quelques temps, il va nous expliquer tout ça, Upstone. Et donc on va parler ce matin de crowdfunding immobilier, de financement des opérations, de sous-financement des opérateurs promoteurs. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Bien, on est ravis de vous accueillir. Alors Upstone, C'est quoi la promesse d'Upstone, au fond ?
La promesse d'Upstone, c'est de permettre à des petits investisseurs, à partir de 100 euros, d'investir dans des projets de promotion immobilière, de marchand de biens, donc des projets de construction de logements ou de rénovation de logements, à partir de 100 euros, pour accompagner des opérateurs dans leur projet, et en échange d'une promesse de rentabilité qui est entre 8 et 12% par an, sur des durées qui sont de l'ordre de 6 à 36 mois.
D'accord. Et comment ça marche au juste ? Comment ça fonctionne ? À quel moment on intervient ? Quel type d'opérateur vous accompagnez ? Enfin, en gros, on veut tout savoir et pour ça, on va vous laisser une minute, comme une la tradition minute. Le veut dans cette petite chronique.
Ça marche. Alors, généralement, les opérateurs immobiliers se financent avec un petit peu de fonds propres, beaucoup d'effets de levier bancaire et de la vente en état fini d'achèvement. Et nous, on vient compléter le financement des fonds propres des opérateurs. Donc, on intervient à un moment où les autorisations sont obtenues, on a le permis de construire, on a de la commercialisation. Donc en fait, c'est juste au moment où on commence à construire. C'est pour ça qu'on a des durées d'immobilisation qui sont de l'ordre de 18 mois. Parce que pour sortir un bâtiment, il faut à peu près 18 mois de construction. On est aussi sur des projets de rénovation. On peut financer l'intégralité de l'opération sur l'achat, revente avec rénovation et revente à la découpe. Donc on est beaucoup sur des rénovations de résidentiels et des constructions résidentielles. Un petit peu sur du bureau, un petit peu sur des hôtels aussi. Et on finance des opérateurs immobiliers de petite et moyenne taille. On a des noms comme Anteus dans l'Est qui est très beau.
Alors, on parlera après de qui vous fait confiance. Qui vous fait confiance, on verra après. Mais quand on préparait l'émission, vous me disiez en fait que vous aviez pas loin de 2500 investisseurs.
Exactement, on a 2500 investisseurs sur la plateforme qui est prêt à investir, qui ont investi sur des projets. Pour terminer, on a financé 65 projets pour un peu moins de 60 millions d'euros et on a déjà remboursé un peu moins de la moitié, donc aux alentours de 30 millions d'euros.
Donc tout se passe bien, on est bien remboursé
voilà.
Chez Hobson.
Tout se passe bien.
Parfait. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, donc c'est essentiellement du logement. Vous permettez évidemment de reconstruire la ville sur la ville puisque vous intervenez aussi sur des projets de rénovation, réhabilitation. C'est du particulier, donc qui investit des tickets. Alors vous parliez à partir de 100 euros, mais le ticket moyen.
Le ticket moyen, sur les opérations, il va se situer entre 2000 et 3000 euros.
D'accord.
On a un écart type qui est assez fort, puisqu'on a des personnes, on a beaucoup de petits investisseurs qui mettent 100 euros très régulièrement sur les projets. Donc l'idée du ticket à 100 euros, c'est de pouvoir se diversifier. C'est pour investir des petits montants sur beaucoup d'opérations. Et on a des tickets qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des personnes physiques. On a aussi des sociétés qui placent un petit peu de trésorerie et des holdings familiales ou des plus grosses sociétés qui viennent avec des tickets un peu plus grands.
Là, c'est des tickets qui doivent être un peu supérieurs à 100 euros. Hein.
Exactement. Voilà. On rajoute quelques zéros.
Ok. 65 projets déjà engagés. Mm-hmm. Hein, donc, c'est une dynamique. On peut dire que c'est dynamique. Alors, qui vous fait confiance aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques opérateurs immobiliers qui vous accompagnent?
Alors, on peut déjà citer Spirit, qui a pris une participation dans la société il y a quelques mois maintenant pour accompagner notre développement. Donc, Spirit, qui est un promoteur leader dans les parcs d'activité.
Allez, on en profite pour saluer Félix.
Exactement. Ça lui fera plaisir. Je sais qu'il nous écoute. Et qui va nous permettre de consolider notre offre, de pouvoir proposer encore plus de projets à plus d'investisseurs. On a des partenaires réguliers, comme je citais tout à l'heure, Anteus, qui est entre Mulhouse et la Haute-Savoie. On a des opérateurs à Strasbourg et Rosheim avec Alpha. On a le groupe Projet, qui est plutôt sur Clamart, qui opère beaucoup sur des opérations de marchands de biens.
D'accord, donc vous intervenez bien, aussi bien en Île-de-France qu'en région pour accompagner les promoteurs.
Exactement, on a fait Biarritz, Lille, Île-de-France, évidemment. Évidemment, on est allé dans le sud-est, on regarde des dossiers un petit peu partout.
Très bien. Bon, alors maintenant qu'on a écouté tout ça, on est très tenté. Comment on fait pour vous contacter?
Alors pour nous contacter, c'est très simple. On a déjà la plateforme Hobson.co sur laquelle on peut se rendre pour créer un profil, commencer à accéder aux détails des investissements et des opérations. On a une rubrique contact sur le site, on a un email. On peut avoir contact à topstone.co sur lequel on reçoit les emails, on tâche d'y répondre dans des délais assez brefs. Et on a bien sûr LinkedIn sur lequel on a la page Hobson, ma page.
Et la page d'Arnaud Romanet, R-O-M-A-N-E-T.
Voilà.
Et on publiera évidemment un post. Allez, on a encore on a une ou deux minutes. Oui, allez, j'en profite pour poser la question du Joker. Et dans 5 ans, Hobson, c'est quoi?
Dans 5 ans, Hobson, c'est toujours une plateforme qui propose de l'investissement immobilier, probablement avec différentes catégories de projets. Là, on est sur des projets qui sont plutôt courts, avec des rémunérations assez élevées. On pourrait imaginer une structuration d'offres qui couponne, on va dire, qui peut payer tous les mois, qui peut payer tous les semestres, tous les trimestres, sur des sous-jacents un tout petit peu différents. Toujours immobilier, probablement un peu résidentiel, un peu bureau. Mais on a dans les cartons des offres qui permettent d'avoir du rendement un petit peu plus long terme. Donc on imagine bien une offre qui va se compléter pour qu'un investisseur qui souhaite faire de l'immobilier puisse se dire, bah moi j'ai des objectifs à 5 ans, à 10 ans, à 2 ans, à 6 mois, et qu'il puisse trouver son bonheur en investissant sur
Hobson. Parfait, allez. Je rajoute une ou deux infos supplémentaires pour vous dire que ce qui m'a vraiment convaincu de vous présenter Arnaud, c'est aussi qu'il partage son savoir, puisque en plus d'être un brillant fondateur de start-up, il est enseignant. Hein, donc, alors, dites-nous.
À mes heures perdues.
Voilà, et donc, dans quelle école et sur quel sujet?
Alors, j'anime un cours de finance immobilière que je donne à l'ESCP, que je donne aussi à l'ESTP, et j'ai le module d'asset management à l'ICH, et encore une fois, un module de finance immobilière à la Sorbonne au Master GESIC.
Bravo pour. Pour cette belle trajectoire, bravo pour la start-up qui démarre très très bien. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès, on continuera à vous suivre évidemment sur Radio Immo.
Super.
Je remercie notre partenaire bien ici également et je vous dis à très vite Arnaud et bonne continuation.
À très bientôt, merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Le Mac de Limo, on continue. Dans quelques minutes, il sera 8h. Mais tout de suite, on accueille notre invité du jour. On a le plaisir d'accueillir Mario Baravecchia. Bonjour Mario.
Bonjour.
responsable associé de Réservoir Immo. Alors, dans quelques instants, on va tout savoir sur votre parcours, un parcours atypique. Certains, peut-être, vous auront reconnu, puisqu'il y a une vie médiatique, une vie dans les médias, dans la musique surtout. On vous a connu à la Starac, on va en parler, bien évidemment. Et puis, on verra votre reconversion. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses, hein, évidemment, depuis ce temps-là. Vous serez aux commandes de cette émission avec une programmation musicale. On va vous écouter. C'est pas tous les jours qu'on a un chanteur émérite à ce micro. On va, tiens, justement, démarrer, si vous voulez bien, Mario, avec un premier titre. Una storia
importante.
Una storia importante. Vous avez l'accent.
Avec l'accent, c'est mieux. Pourquoi ce choix?
Bah, c'est une chanson que j'avais repris à l'époque quand j'étais chez Universal Music. Et en fait, c'est Eros Ramazzotti qui m'avait donné l'envie de chanter quand j'avais 10-11 ans. Mmh. Et j'ai eu la chance de travailler avec son producteur, Piero Cassano, avec qui j'ai fait cette reprise. Donc la boucle était bouclée pour moi. Voilà. Donc j'étais à Milan, travaillais avec le producteur d'Eros pour faire cette chanson. Et d'ailleurs, on avait fait un magnifique duo avec Grégory Marchal lors d'un prime sur TF1. Et c'était un très beau souvenir.
Ah, magnifique. Bon, allez, justement, on écoute, on se retrouve juste après pour faire le portrait de notre invité. À tout de suite.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis, et bien ici.